Vous écoutez
RMC.
RMC.
Ça fait partie du football de chambrer, mais attention au revers du bâton.
Ce qui est formidable dans le football, c'est que l'avis du chauffeur de taxi vaut celui de n'importe lequel de ses clients.
Comment c'était ce dessin animé où il y a les chiens là?
Les Aristochats.
20h-22h, Génération After.
Nicolas,
bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et bonjour à toi qui nous écoute en podcast. Bienvenue dans Génération After sur RMC, l'émission qui ne parle pas de prospects proches de leur prime, mais d'espoir proche de leur sommet. Bonsoir, monsieur Wade Acharsour. Je t'ai bien regardé. Hein.
Ouais. Bonsoir, Nico, bonsoir à tous. Quel plaisir de revenir sur ce podcast.
Un homme heureux qui nous retrouve dans Génération After avec un. Tu peux le dire ou pas, un petit précieux autour du doigt?
Oui, c'est vrai, on s'est absenté pour un euro aux événements.
Ah, tu dis on, c'est toi et toi? C'est comment ça se passe?
Non, je me suis absenté. Excuse-moi, Nico.
Romain Canuti, l'autre Marseillais, le vrai hein, de l'After, est avec nous. Salut Romain.
Pas sympa pour Jonathan, salut.
Et Oussem Loussaïef, qui a passé une très bonne soirée hier au Parc des Princes. Salut Oussem.
Exactement. Ah, ouais. Je suis fier d'être brésilien. C'est ouf.
C'est ouf. Quel match.
Pas mexicain, toi. Hein.
Quel match.
Ce soir, messieurs, au programme de Génération After, le mondial. Ça y est, le décor est planté. On connaît à peu près la forme des sélections. Quel est votre favori? Gros débat. Appelez-nous au 32-16. Partagez également votre favori pour ce mondial qui démarre dans 53 jours. Le Brésil est-il vraiment au-dessus? On en débat dans quelques instants. 20h30, le Vélodrome, donc à huis clos mardi prochain pour la réception du Sporting. Les supporters de l'OM ont-ils en partie plombé la saison de l'OM en Ligue des Champions? Et puis, à 21h, Walid, tu lances un appel à Mbappé. Kylian, pense collectif et moins à toi. Pense à ton équipe. Je suis sûr qu'il va écouter et sûrement changer de comportement.
Oui, sûr. C'est le but en tout cas.
Qui va faire 32-16.
Oui, c'est... peut-être. On espère.
21h30, l'affaire Belaïli, accusé de pourrir sa carrière, Brest et son appartement. On donnera nos informations à partir de 21h30. Et puis la chronique de Jimmy, comme dans chaque Génération After, à partir de 21h45 et à 22h. Gilbert Bribois, salut Gilbert.
Salut les gars. Ah oui, alors Julien Fournier sera avec nous tout à l'heure, ex-directeur général.
Il vient physiquement
de l'OGC Nice. Non, il est à Parme.
Il est directeur sportif pour l'Italie. Enfin,
on a organisé une liaison optimale pour pouvoir bien l'entendre et débattre avec lui. Parler d'Ineos, parler de Galtier, parler de River, parler de ce qui s'est passé à Nice pour lui. Entre autres sujets d'actualité avec Julien Fournier, donc supporter niçois, soyez là au 32-16 tout à l'heure. Et puis à 23h, les nouvelles affaires du PSG. Chaque semaine, une affaire. Hein. Mais là, c'est chaque jour une affaire. Donc, il y a l'affaire Amraoui, les féminines, tout ça.
Qu'est-ce qui se passe encore?
Hier soir, on apprenait donc qu'un ex-référent supporter était mis en examen, qu'il était policier pour avoir en gros divulgué des infos de première main au club alors qu'il n'avait pas le droit de le faire. Et là, ce soir, un dossier à la une du site de Libération concernant Nasser Al-Khelaifi. On vous dévoilera tout ça tout à l'heure à 23h. C'est explosif. Nouvelle affaire, donc au PSG.
Ah oui, c'est explosif.
Ce sera à 23h. Et puis, on reviendra également sur la déclaration de la ministre Oudéa Castéra, qui veut que les footballeurs, en gros, jouent au foot. Ils se mêlent pas trop.
Jouent et tout.
Voilà. Ce qui plaît pas trop à certains. Certains footballeurs, justement. Donc, on en débattra dans l'after. Et puis, le fameux classement des pigeons qu'on doit faire depuis 10 jours, mais qu'on va faire pour de bon ce soir. Évidemment, d'ici minuit, voilà le programme, c'est énorme. Stéphane Guy sera là, Daniel Riello sera là. Voilà. Je vous laisse, j'ai un dîner chez Belaïli. Et elle prépare un truc pour nous. À tout à l'heure.
À tout à l'heure, Gilbert, à partir de 22h.
Nico, l'After, Romain. C'est ça, c'est l'émission qui est influencée par Génération After, c'est
exactement.
Ça
tout à fait.
Non, parce que je te dis ça parce que je suis venu cet été, j'étais avec toi pour faire une chronique Donnons-nous tous la main et quittons Twitter.
Oui.
Daniel Riolo, bon, qu'est-ce qu'il fait? Il quitte Twitter. Quelque part, j'ai une question.
Il y a un truc.
On est à mi-chemin
Romain le devin.
Entre le journalisme et l'influence. On y est totalement.
Alors, messieurs, c'est parti pour Génération After. Vous nous appelez au 3216. Hashtag RMC Live et puis Direct Studio hein, sur l'application RMC Sport pour envoyer vos commentaires, vos questions, vos critiques également. Les gars, donc quel favori pour le mondial au Qatar? C'est dans 53 jours. Qui vous semble mieux armé, préparé pour la compétition? On vous attend au 32-16. Les bookmakers, je le rappelle, voient le Brésil devant la France. La cote est encore un peu descendue depuis le match hier soir face à la Tunisie. Bookmakers, c'est des footix.
Oui.
C'est une question qu'on peut se poser. Brésil devant France, Angleterre, Espagne, Argentine, Allemagne, Pays-Bas. On vous attend au 32-16. Tiens, commençons avec toi pour ton retour, mon cher Walid. Qui est ton favori?
Bah, j'ai deux favoris, puisqu'on en a parlé un peu en amont.
T'en as plus gros que l'autre ou pas,
oui,
quand même?
Non, pour moi, je mets l'Argentine devant le Brésil par rapport à la dynamique, par rapport à l'ossature qui n'a pas énormément bougé, par rapport aux résultats qui sont parfaits depuis un bon moment, par rapport au travail aussi de Scaloni. et cette victoire en Copa América.
34 matchs sans défaite, l'Argentine.
C'est ça la série. Ouais.
Mais pour moi, je pense vraiment que 20 ans après, donc après le dernier sacre du Brésil en 2002, un pays sud-américain va remporter la Coupe du Monde. Parce que c'est vrai qu'il y avait un petit peu cette guéguerre Europe Sud-Am sur les dernières années qui s'est un peu évaporée au profit des sélections européennes. Mais je pense sincèrement qu'aujourd'hui ils ont, en tout cas ces deux équipes-là ont les ingrédients pour aller chercher cette compétition. Déjà ils ont deux joueurs majeurs, Messi et Neymar, qui sont en grande forme et qui sont en mission sur ce début de saison pour la remporter. On le voit sur les matchs amicaux, on l'a encore vu hier avec Neymar qui a joué 90 minutes alors qu'il aurait pu sortir après le tacle de Dylan Brown notamment.
Pas grand chose.
On voit avec Messi qui rentre hier même un peu malade à la 50e minute et qui va claquer un doublé, même si ça reste que la Jamaïque. Et puis voilà, je pense qu'ils ont les individualités pour, ils ont deux facettes un peu spectaculaires et aussi un peu méchants, avec des joueurs capables d'annihiler beaucoup de contre défensifs. Et moi, pour moi, voilà, le Brésil et l'Argentine, je les mets devant. Je peux mettre aussi la France, mais pour moi, la France, on en parlera après, avec les blessures, avec le climat autour de cette équipe de France. Je trouve que c'est plutôt, voilà, je trouve que c'est plutôt inquiétant.
Pas du tout d'accord avec vous, mais
ouais, moi non plus. Mais Walid, juste tu parle du Brésil de 2002. Tu te rappelles quand même, avant la Coupe du Monde, il y avait ce truc-là, on se disait, il y a Ronaldo, il y a Rivaldo, il y a Ronaldinho, donc il y avait quand même un potentiel offensif certain. Là, aujourd'hui, si tu me compares ces trois-là à Rafinha...
Rafinha qui est en grande forme avec le Barça, tu prends Vinicius qui a pris une dimension énorme, même avec la blessure de Benzema sur le début de saison.
Vinicius et Neymar, il porte
à bout de bras.
Vinicius et Neymar, ok. Mais que ça soit Rafinha ou Richarlison, je te dis pas qu'ils sont mauvais. Ouais. Attention, mais je te dis juste qu'en comparaison par rapport à 2002,
bien sûr,
mais c'est pas pareil.
Bien entendu que vraiment. Non, mais comparaison n'est pas raison. Aujourd'hui, on peut pas, Romain, transposer les générations comme ça 20 ans après.
Je te dis
juste que l'armada offensive, tu prends Rodrigo qui est remplaçant, tu prends Gabi Jesus qui est même pas dans le groupe et qui fait un début de saison extraordinaire avec Arsenal, tu prends le petit Anthony qui est arrivé à Manchester United qui était sur le banc hier.
Peut-être
on peut émettre des doutes, mais le réservoir et le matériel qu'Atich a sa main, c'est quand même assez dingue.
Pour toi, l'Amérique du Sud, cette année, pour toi.
Et l'Argentine, je répète sur l'Argentine, mais on a vraiment l'impression que depuis ce sacre en Copa América, que cette équipe qui enchaînait les finales perdues, que ce soit en 2014 en Coupe du Monde ou même en Copa América, on se rappelle contre le Chili notamment, il y avait eu beaucoup de traumatismes, qu'il s'est passé quelque chose autour de Messi. C'est la dernière compétition de Messi. Ils ont plutôt un tableau abordable s'ils terminent première de leur groupe. Moi, je pense vraiment que le Brésil ou l'Argentine remportera.
Tu l'as vu la finale de la Copa América?
Oui, c'est un football. C'est pas un football chatoyant, mais attention, pour gagner une Coupe du Monde, Romain.
Un peu de respect pour le football de quartier.
Non, mais Romain, pour gagner une Coupe du Monde, je suis désolé, mais il faut aussi des joueurs au milieu de terrain comme Rodrigo De Paul, comme Casemiro. On l'a vu, on a gagné une Coupe du Monde en 2018, on peut pas dire que c'était extraordinaire.
Je vais rapidement l'équipe type, de Tite avec le Brésil, Alisson dans le but, Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Tellez,
oui.
Paqueta, Casemiro, Neymar, Rafinha, Richarlison et Vinicius à gauche.
Oui, la composition d'équipe, c'est passé. Bon, il y a Danilo qui joue latéral.
Exactement. Et puis tu es sur un milieu de terrain plutôt Casemiro et Fred. Et c'est lui qui a fait la plupart des matchs
Ou Paqueta s'il est un peu recentré parce qu'il a joué ailier hier. Mais en tout cas, il y a beaucoup de possibilités pour Tite.
Avant d'écouter vos pronostics, Oussem et Romain, je vais accueillir Pablo au 32-16. Salut Pablo.
Salut.
Salut Pablo.
Salut Pablo. Bienvenue dans Génération After sur RMC. Pablo, quel est ton favori?
Moi, c'est l'Argentine aussi. Hein.
Pourquoi?
C'est l'Argentine. Moi, je suis le football sud-américain en gros depuis très très longtemps. Et je pense que depuis l'ère Messi, ils n'ont jamais été autant bien en place et autant tout s'aligne. J'ai eu la chance de les voir à Wembley aussi pour le match contre l'Italie, moi, cette année.
Sur la finale, c'est mal, ouais.
Ouais. Et donc, clairement, ils jouaient à domicile. Hein, quand tu vois ce qu'il y avait dans le stade comme supporter et quand il y a l'ambiance qui les porte et tout ça en plus. Je pense que y a pas seulement besoin qu'il y ait une équipe, un style de jeu ou quoi que ce soit. Enfin, c'est une équipe qui a besoin que son pays le soutienne. Et je pense que le pays a jamais été aussi unanime derrière toute l'équipe et notamment derrière Messi.
Est-ce que
Vas-y Pablo, tu peux finir si tu veux.
Non, et donc voilà, je pense que c'est la Ils ont déjà réussi à faire une finale dans un contexte plus compliqué quand c'était au Brésil. Donc je pense qu'ils ont toutes les chances d'aller jusqu'au bout cette fois-ci.
Romain.
Est-ce que, Pablo, je te pose une question, si tu as vu en plus les matchs, ça tombe bien. Est-ce qu'on n'est pas, on n'a pas un jugement biaisé concernant l'Argentine? Et c'est vraiment une question. Moi, j'ai toujours connu l'Argentine, peut-être à part le Mondial 94, et encore, c'était compliqué avec cette histoire de Maradona. Mais juste après, j'ai toujours connu une équipe d'Argentine avec un potentiel offensif impressionnant, où, vu de France, à chaque fois avant le Mondial, tu regardes l'équipe et tu te dis, mais comment ils vont réussir à caser autant de joueurs offensifs? Ouais. C'est même le cas en 2014. Tu te dis, mais qui ils vont mettre? Il y en a forcément qui sont écartés. Puis tu te dis, lui, il s'entend pas avec lui.
Pour une fois, ça n'existe pas, là.
Et est-ce que c'est pas justement biaisé dans le sens où c'est peut-être la première fois où il n'y a pas un potentiel offensif aussi fou que les années précédentes? Là, il n'y a plus de Kun Agüero, il n'y a plus de
Higuain,
il y a plus Higuain et compagnie. Et
donc, du coup, inutile.
Tu te dis, comme offensivement, c'est moins impressionnant, tu as tendance à te dire, c'est peut-être plus cohérent. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, le groupe en soi est plus, peut-être un peu plus cohérent. Et
moins impressionnant, mais, peut-être, tout simplement.
C'est ça, mais et vous parliez du style de jeu qui n'est pas forcément mieux, mais il y a toujours des. Enfin, il y a eu des vainqueurs en Coupe du Monde où ça
s'est
jamais forcément toujours très beau. Je pense que cette année, ils ont le petit truc en plus qui peut leur permettre vraiment d'aller jusqu'au bout. Et puis le groupe est largement à leur portée, hein, parce que je sais pas si vous avez suivi le Mexique qui a galéré, par exemple,
ça devient compliqué le Mexique sur les derniers mois.
Ouais, ils sont au point où les gens sur place ils réclament le retour de Chicharito en sélection. Donc
l'Argentine, mon cher Pablo, va jouer l'Arabie Saoudite le 22 novembre,
attention,
le Mexique et la Pologne le 30 novembre.
Juste pour rajouter un truc, Nicolas, à Pablo, je suis d'accord avec toi et je vais le développer tout à l'heure sur les équipes que j'ai choisies. Il n'y a pas forcément besoin d'un fond de jeu pour gagner une compétition. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, le seul bémol que je peux mettre, et là, je rends hommage à Flo Gautreau, le seul bémol que je peux mettre, c'est que on n'a vraiment pas vu l'Argentine en difficulté. Alors oui, c'est beau de voir 30 matchs.
Exactement.
Tu regardes les 30 matchs sans défaite, tu joues 4 fois la Bolivie.
Non, mais ils sont bien gentils. Tu mets une trempe à l'Italie quand même, Oussem.
Tu mets une trempe à l'Italie sur un match de gala. C'est un match où tout le monde est cramé, il n'y a plus d'enjeux, tout le monde pense aux vacances.
Et puis ils ont battu le Brésil aussi.
Ah oui, ils battent le Brésil, ils battent l'Italie, c'est quand même champion d'Europe.
J'aimerais bien les voir face à une équipe comme l'Allemagne, on verra. Un truc un peu plus solide en Europe.
Mais de toute façon, ce bémol-là, tu peux le mettre sur toutes les équipes. Non, même en Europe. Il y a encore une fois des plus et des moins sur les rassemblements précédents où il y a des inquiétudes pour beaucoup de grosses équipes. Là où j'aimerais insister sur l'Argentine, c'est que tout à l'heure tu disais Romain qu'il y avait pléthore de solutions en attaque. Pour une fois, j'ai l'impression qu'il y a une stabilité et il y a une équipe qui est très très équilibrée. Lautaro Martinez, on sait très très bien que c'est une valeur sûre maintenant avec cette équipe d'Argentine et il a une complémentarité avec Messi. Le milieu à trois, Rodrigo De Paul, Lo Celso, Paredes, ça fonctionne depuis 3 ans et ça continue comme ça. Otamendi, Romero de Tottenham, ils n'ont pas pris de but depuis 4-5 matchs. Emiliano Martinez, le gardien d'Aston Villa, ils avaient un gros souci à ce poste-là avec Armani.
Nous as vendu quand même Otamendi comme un crack de la défense centrale.
C'est pas un crack Otamendi, mais que ce soit avec Benfica ou avec l'Argentine. Attention, il a une âme dans cette équipe-là et c'est important d'avoir ce genre d'expérience. D'accord. Et puis tu as, encore une fois, cet engouement autour de Lionel Messi. C'est sa dernière. Il lui manque ce trophée. Il va se passer quelque chose.
Et Dybala
Dybala, il n'est pas. Il n'est pas dans les plans, il n'est pas titulaire, Dybala. Et il le sait. Et même ça, je pense que son sort, il l'a.
Ça va être la dernière pour plein de monde.
Il l'a compris.
Je vous remercie, Pablo.
Je crois vraiment.
Merci Pablo d'avoir fait le 32-16. Excellente soirée. Tu peux nous rappeler d'ici la Coupe du Monde. On aura d'autres débats de ce type, bien sûr, à l'approche du mondial. Bonsoir également à Duès, le direct studio, qui dit Walid vient le dire correctement, Teach. Je ne veux plus jamais l'entendre dire Bosch en parlant de Peter Boss.
c'est pas faux. Kevin Diaz me tire souvent les oreilles.
Peter Boss. On prolonge, bien sûr, le débat dans un instant. Les pronostics, les favoris de Oussem et de Romain. N'hésitez pas à nous appeler au 32-16 pour participer au débat. Vous écoutez TRMC, 20h15, Génération After. On revient dans moins de 2 minutes. A tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Génération After sur RMC, 20h17. Merci d'être avec nous, avec Walid Acherchour, Oussem Loussaïef et Romain Canuti. On est ensemble jusqu'à 22h. On débat ce soir dans Génération After. Quel favori pour le mondial qui débute dans un peu plus de 53 jours. Donc on a compris pour Walid, c'est Argentine-Brésil. même pied d'égalité pour toi, même cote.
Oui.
On est d'accord. D'ailleurs, ça fait penser à ce qu'avait dit Mbappé il y a 3 mois seulement, vous vous rappelez, en juin dernier.
Sur l'Argentine?
Ça avait mis le feu à l'Argentine.
Ouais, oui.
Il avait dit, l'avantage qu'on a, nous, les Européens, c'est qu'on joue toujours entre nous et on a des matchs de haut niveau tout le temps, comme en Ligue des Champions des Nations. Quand on arrive à la Coupe du Monde, on est prêt, là où le Brésil et l'Argentine n'ont pas ce niveau-là. Ça rejoint un peu
c'est
ce que tu dis.
C'est provocateur, mais je suis pas loin d'être d'accord.
C'est où c'est Mbappé qui parle, là?
Non, je suis pas loin d'accord avec lui.
Yann Moussaïef. Romain, quel est ton favori?
L'Allemagne. Parce que je veux être pote un peu avec, ah ouais, avec Polo.
T'as peur de Polo?
Ouais. Non.
On a tous peur de Polo un peu, ouais. Tu sais. Hein.
Non, moi ce que j'aime beaucoup dans cette équipe d'Allemagne, en fait, c'est que ça s'appuie évidemment sur une équipe, le Bayern. Et je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs en termes de complémentarité. Je trouve ça assez intéressant parce que Gnabry, les Leroy Sané, les Kimmich, les Goretzka, les Thomas Müller,
Moussiala,
évidemment.
Maintenant. Tu noteras que quand Moussiala. Le Bayern va mal, l'Allemagne va mal également. On en a parlé lundi, ouais, avec les drôles de dames. Ces joueurs-là sont pas au top actuellement non plus.
Ils sont pas au top, mais je pense qu'ils sont capables de faire quelque chose. Ce profil d'attaquant qui n'en est pas vraiment un, avec notamment Kai Havertz.
Pas vraiment un, même, mon cher.
Ouais. Excuse-moi pour cette liaison.
Dangereuse. Si t'as envie de dire pas vraiment zin, tu dis pas vraiment zin. Pas vraiment zinzin.
Je pensais à Kai Havertz sur la fin du Havertz qui aide pas. Mais effectivement, je trouve que l'ensemble est cohérent et j'ai l'impression, j'ai regardé un peu dans la presse allemande, je suis pas au cœur du truc comme Polo, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas ce côté rivalité que tu peux avoir dans la culture dans d'autres équipes où si tu vas avoir par exemple un Souleux, par exemple, qui va être derrière, il va pas être vu comme le traître qui est parti du club ou ça pourrait se passer comme ça dans d'autres sélections. Donc ça me fait dire que ils ont un entraîneur aussi qui sait ce que c'est que gagner des trophées importants. Donc voilà, l'Allemagne. Et puis il y a cette culture du résultat qui est très importante. J'ai mis comme mode favori les
je rappelle l'Allemagne, hein, sortie phase de poule, hein, mondial russe.
Ouais, et qui vient perdre contre la Hongrie. Hein.
Grosse revanche à prendre.
Et avant, ils ont fait quoi?
Champion du monde, certes. Mais là, tu remontes à 8 ans, mon cher Romain.
Ouais, mais c'est suffisant.
Tu sais que l'Italie a gagné la Coupe du Monde il y a quelques années aussi. Tu sais que l'Uruguay aussi. Mais qui sort.
Non, mais c'est important. Là, l'expérience, un Thomas Müller, il a gagné. Voilà. Donc, il y a quand même quelque chose dans cette équipe. Et par rapport à la culture aussi, je dis la culture de la gagne, une équipe comme l'Argentine, à chaque fois, on parle du potentiel et tout. Je veux pas détruire les arguments de Walid. Je suis pas là pour détruire les favoris de Walid. Juste ça. Mais.
T'es très
nous,
glissé,
on a coutume de se dire, par exemple, les Pays-Bas, que je vois bien faire un beau parcours, pas forcément être champion. Voilà, pour moi, c'est. Tu disais tout à l'heure, Walid disait kiff pour le Brésil et l'Argentine. Moi, je passe quand même l'Allemagne bien devant les Pays-Bas. Je vois les Pays-Bas faire un beau parcours, mais la première réflexion qu'on a sur les Pays-Bas, c'est de se dire, ouais, mais les Pays-Bas, on sait très bien qu'ils vont gagner 2 matchs, ils vont prendre la grosse tête, ils vont se foutre sur la gueule parce qu'on sait un peu la mentalité. Pour moi, les Argentins, c'est pareil. C'est juste qu'ils sont plus loin, donc on n'a pas ce réflexe-là. Mais c'est un peu le même état d'esprit pour moi. C'est pas une équipe, unie ou quoi que ce soit. Là où il y a cette, on va pas rentrer dans le cliché, s'il vous plaît, de dire la discipline collective et compagnie. Mais il y a ce truc-là, cette culture.
S'il y a un caractère qu'on peut entrevoir chez les Argentins depuis 3 ans, c'est l'union quand même, hein, autour d'une même mission. C'est de donner la meilleure du monde à Lionel Messi
pour gagner une compétition.
Exactement. Et pour revenir juste sur l'Allemagne, moi les bémols, c'est que déjà, je trouve que Hansi Flick un entraîneur que j'adore, hein, mais n'a toujours pas trouvé la formule.
C'est titulaire aussi.
Et c'est titulaire et qu'il y a énormément. Tout à l'heure, on parlait du matériel offensif pour l'Argentine sur les années précédentes qui a fait défaut. Moi, j'ai l'impression quand même que pour l'Allemagne, il y a beaucoup, beaucoup de profils et qu'ils n'arrivent toujours pas à trouver la bonne association devant. Et qu'entre Moussiala, entre Werner, entre Kai Havertz, entre Thomas Müller, entre l'ancienne génération, la nouvelle, les joueurs qui sont à mi-chemin, j'ai pas l'impression, en fait, pour l'instant, que ça marche. Et surtout, pour terminer, Romain, j'ai l'impression qu'on est sur une Allemagne sympathique, gentille. On n'a plus des joueurs méchants, capables. Et ça me. Alors, bien entendu,
la grande théorie de Polo.
T'as
le Kedira. Kedira, c'est pas un. Ouais,
mec, non, mais même pour Polo, c'est qu'une bande de bobos de Berlin ou Munich.
Non, mais des fois, je le ressens, moi. Il a raison, Polo, parce que des mecs comme Schweinsteiger, des mecs. Non, mais même des vrais tauliers.
Schweinsteiger.
Non, mais derrière, c'est. Non, mais il y a de très beaux joueurs. Il y a de très bons joueurs qui jouent dans les plus grandes équipes. Rudiger, tu prends Kimmich au milieu de terrain. Tu les as tous cités. C'est des joueurs individuellement extraordinaires. Mais pour l'instant, je trouve que l'emballage, et je serais très très surpris, moi, que l'Allemagne gagne la Coupe du Monde dans un mois et demi. Et je te dirais bravo.
5 matchs nuls, hein, sur les 7 derniers matchs.
Non, mais juste sur le truc de la formule, Tu as vu en 2018 un sélectionneur qui s'appelait Didier Deschamps qui a trouvé sa
bonne formule. Oui, mais d'accord, mais ça maintenant c'est l'argument que Oussem va me sortir dans deux minutes. Je vois d'ici. Mais non, c'est l'argument de fétiche à tout le monde.
C'est ça qui est intéressant, c'est que Oussem n'a pas eu les mêmes favoris que vous.
Exactement. Moi, je pars sur la France et un cran en dessous l'Espagne. Je vais d'abord expliquer la France. Je le répète pour la troisième fois depuis le début de l'émission, je ne pense pas qu'il faille des assurances et des garanties dans le jeu pour gagner une compétition. Pour moi, et selon ce que j'ai vu dans ma vie du football, la seule chose la plus importante, c'est de créer un groupe. Et ça va être le plus gros chantier de Didier Deschamps parce qu'il y a des dissensions en ce moment entre Mbappé, Giroud, Benzema, on ne sait pas trop. Mais j'ai confiance en Didier Deschamps pour trouver la bonne formule psychologique pour créer l'union dont tu parlais au niveau de l'Argentine. C'est pour moi la qualité principale. Le reste, ça suffit pour gagner des matchs 1-0 très moches, très illisibles, comme tous les esthètes du football essaient de voir. J'ai vu des commentateurs de football dire « Oui, mais on ne comprend rien à la stratégie. »
Ah, mais il faut un peu de football quand même.
Non, il ne faut pas du football. Non, il faut pas, je te jure qu'il faut pas.
Il faut pas une cohérence tactique.
La France bat l'Argentine en envoyant Mbappé dans le dos de la défense, ça suffit.
Oui, mais avec un socle défensif, oui, avec il y a quand même un
c'est,
foot prôné.
C'est ce que je te dis. L'Espagne fait Euro Mondial Euro avec un style de jeu très identifié.
L'Allemagne 2014 aussi.
Attention, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est pas nécessaire, c'est mieux d'en avoir.
Bien sûr.
C'est pas nécessaire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que Didier Deschamps, à mon sens, est capable de retrouver cette cohésion au sein de l'équipe de France et d'instaurer ce qu'il sait faire de mieux, ne pas prendre de buts. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, c'est la rue est vers dans le dos de l'équipe de France.
C'est le saloon, hein.
Mais je peux te dire qu'il est capable de le faire. Et il va le faire. Et comme disait Daniel il y a quelques jours, il va faire sa propre tactique, il va verrouiller, il y aura 7 mecs.
Mais on avait dit la même chose à l'Euro 2021.
Oui, mais à l'Euro 2021, tu avais moins de temps pour préparer ton trio offensif. Et là, je pense qu'il
a. Avec les blessures, avec les rassemblements mitigés,
je pense préciser une chose également, Deschamps adore préparer son équipe au combat pendant un mois de préparation. Il a toujours dit. Hein,
Moi, je pense qu'on aura le droit à des matchs très 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 sombre, pas beau à voir peut-être, mais je suis persuadé qu'il va y arriver. Alors je les mets vraiment en favori. J'ai mis en deuxième équipe l'Espagne. Alors je vous dis tout de suite, je pense pas qu'ils vont gagner la Coupe du Monde, mais je les vois vraiment aller loin pour une simple bonne raison, c'est que j'aime ce que fait Luis Enrique. C'est pas très beau à voir, c'est plus l'Espagne comme tu disais très sympa. C'est pas l'Espagne qui fait tourner tout le monde, mais c'est au moins il a pris le parti de changer le groupe. Il a gardé deux trois cadres, Busquets, Azpilicueta et il met de temps en temps un Alba, mais je pense qu'il a renouvelé sa génération et je suis prêt à parier que dans les prochaines années, les Gavi, les Pedri,
on parle de ce mondial-là. Oui.
Je pense qu'il
n'y a pas de numéro 9 efficace pour l'instant en Espagne.
Il n'y a pas besoin pour gagner des matchs. Ah oui. T'as pas besoin d'avoir
de pousser le ballon dans le but.
Et t'as pas besoin. On a gagné des matchs, les gars, avec Hernandez pour Pavard.
Arrêtons de prendre comment dire 2008 pour une généralité.
C'est pas une généralité, c'est une vérité.
C'est une vérité à l'instant. C'est une vérité en 2018.
Et pourquoi l'Espagne n'y arriverait pas?
Non, mais quand je vous parle de l'Allemagne, vous parlez de caractère. Et là, on parle de l'équipe d'Espagne, de Ferran Torres.
Oui, et qui bat quand même le Portugal 1-0 dans un match très sombre où il marque à la fin.
Pour se qualifier pour la Ligue des Nations.
Et ils le font quand même. Ils le font quand même. Et c'est ça qu'on peut donner à Luis Enrique comme mérite. Parce que ça joue pas aussi bien. C'est pas l'Espagne qui nous fait rêver. Mais il gagne ses matchs. C'est tout ce qu'on demande sur une compétition.
Attention,
il gagne ses matchs.
Oussem, l'Espagne, moi je te rejoins là-dessus. C'est que l'Espagne, hier, c'était pas extraordinaire,
mais il y a eu
des matchs en Ligue des Nations, le match contre l'Italie notamment, le 6-0 contre l'Allemagne il y a un an et demi après l'Euro où c'était quand même bien mieux, tu prends même à l'Euro le 5-3 contre la Croatie, il y a quand même une équipe d'Espagne, c'est pas devenu la Suède de l'Espagne de ligne de 4, etc. Donc attention, maintenant là où il faut valoriser le travail de Luis Enrique, c'est qu'avec un matériel bien moins
inférieur que les autres,
bien moins bon qu'il y a 10 ans où tu regardes la liste en 2010 et celle d'aujourd'hui, tu te mouilles la nuque, hein, parce que entre Ferran Torres qui joue pas, entre Ansu Fati qui est blessé, tu prends
il prie pour le retour d'Oyarzabal, donc ça,
non mais
ça,
tu prends
choses,
tu prends Sarabia qui joue pas avec le Paris Saint-Germain, bref il y a beaucoup de joueurs qui sont en manque de confiance. Il arrive quand même à les qualifier pour le Final Four, à faire finale de Ligue des Nations, à faire demi-finale d'Euro, et sincèrement sur la demi-finale il mérite beaucoup mieux que l'Italie sur la physionomie.
Il a pris donc le parti de renouveler sa génération et il va aller au bout avec ses idées. Et moi, je suis vraiment confiant sur le fait que quand l'entraîneur il décide de mettre une nouvelle génération, ils vont se battre.
Maintenant, le gap individuel va leur faire mal quand même par rapport à d'autres nations, notamment l'Argentine et le Brésil.
Juste sur l'Espagne, à chaque fois que j'entends un argumentaire sur l'équipe d'Espagne depuis quelques jours, on me parle de cette fameuse demi-finale perdue.
Contre l'Italie.
Comme si, ils méritaient. Mais c'est,
moi, je t'en ai pas parlé.
Tu dis, Ce qu'il faut, c'est gagner. Et ben là, ça, c'est bien la preuve.
Ils n'étaient pas prévus pour aller en demi.
C'est un petit miracle hein, pour Lucien Riquet d'arriver en finale de l'Euro. Les gars, on va prolonger forcément. On pourrait faire deux heures de débat sur le mondial à venir.
Et sur la Tunisie.
Dans un instant, on sera quand même avec Babacar. On va le prolonger de 2-3 minutes. Habitué de l'after, hein, supporter du Sénégal qui, lui.
Met une pièce sur le Sénégal.
Eh oui. Allez, vous écoutez Génération After sur RMC, Romain Canuti, Oussem Loussaïef et Walid Acharchaud. Je vous rappelle également, vous pouvez gagner des places pour aller assister au Qatar grâce à RMC au match Tunisie-France. Vous pouvez envoyer.
Ah oui. 30 novembre.
Exactement, 30 novembre. Tu y seras également, Oussem, bien sûr. Hein,
évidemment,
tu vas vibrer. Pour cela, c'est extrêmement simple. Vous envoyez RMC au 7-32-16. Attendez, je précise bien. Vous envoyez RMC au 7-32-16 pour gagner ces deux places, vol, hôtel, tout compris, et au Qatar, Tunisie-France, 30 novembre.
Accès au studio RMC aussi, tu vois.
Ils vont voir en vrai, les gens, ouais. Effectivement. mais dans un instant, Babacar, on continue le débat de la Coupe du Monde. Quel favori? Vous écoutez RMC Génération After, 20h28. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamin.
Vous écoutez RMC, merci d'être avec nous. C'est Génération After, comme tous les soirs, de 20h à 22h, la nouvelle génération de l'After, avec Romain Canuti, le Marseillais, Oussem Loussaïef, le Brésilien, on l'a appris tout à l'heure. Et également Walid Acharchour.
Le Brésilien.
Comment je peux te qualifier, Walid? L'homme heureux, l'homme épanoui.
Oui, on essaye.
L'homme bronzé, t'es bronzé.
Un petit peu. Ouais. J'ai mis beaucoup de 50.
J'aime bien ton on à chaque fois, j'aime beaucoup. Quoi. Tu me rappelles un acteur français.
Alain Delon.
Par exemple.
Qui parle à la deuxième personne. Il est parti avec son compte Instagram en vacances, il a le droit.
En plus, tu sais très très bien que j'ai beaucoup d'humilité,
oui.
Nicolas.
Ah oui, bien sûr.
C'est juste une.
C'est juste que vous avez beaucoup d'humilité.
En fait, c'est juste une tournure de phrase.
C'est juste qu'ils sont beaucoup dans sa tête.
Oui, je vois ce que tu veux dire.
Ouais.
Dans le monde, c'est presque une forme de pudeur, en fait.
Ouais, exactement.
Une timidité.
Tu vois,
c'est. Tu peux pas dire je, tu peux dire on.
Exactement.
C'est l'inverse de Kylian Mbappé, par exemple.
Voilà, tu vois, je suis.
C'est l'inverse de Kylian, ton avis que tu vas développer à 20
ans. T'as réussi à lire dans.
Je suis
dans
compris par Nico Jamin.
Exactement.
Vous êtes compris, oui, déjà un jour. Alors, messieurs, j'accueille Babacar, grand habitué de l'after. On est heureux de te retrouver, Babacar, évidemment.
Salut, Babacar.
On va parler du Sénégal.
Où es-tu?
Salut, Babacar.
Mais tout le plaisir est pour moi, les gars.
Mais fais-nous kiffer avec les Sénégal.
Alors, quel est ton favori?
Alors d'abord dédicace à Sadio Mané, le meilleur footballeur de l'histoire du Sénégal.
Ouais, il a un peu de mal justement Sadio Mané. Hein. Il a perdu le chemin du but. Hein.
Ah mais justement, il est en train de faire de la réserve pour dans 5
jours. Bien sûr, c'est bien sûr.
Eh oui, c'est oui. Ça. Mais moi, mais j'aime bien, j'adore tout ce que vous dites là. Mais croyez-nous, nous on va aller la gagner.
Qui ah, nous?
Oui. Le Sénégal.
Ah, le Sénégal.
Et Babacar.
Ah oui, on va aller nous.
On te le souhaite, comme je disais, extraordinaire.
Adrien, pour compter, il faut toujours commencer par un. Parce qu'il m'a demandé, quelle équipe tu as vu débarquer comme ça pour une première, boum, et gagner. Peut-être depuis l'Uruguay 1930, peut-être qu'il n'y en a pas eu. Hein. Mais pour compter, il faut commencer par un. Moi, je trouve qu'au niveau de l'état d'esprit, le groupe est hyper cohérent. Aliou tient tout ça d'une main de maître. Il n'y a pas de crise d'ego ou quoi que ce soit. Tout le monde est rangé derrière la superstar de l'équipe qui, contrairement à d'autres, ne fait pas des siennes. L'ambiance est très bonne. Il y a du sang neuf, des jeunes qui arrivent. L'intégration se passe bien pour le moment. Moi, j'étais à un salon de coiffure la semaine dernière avec l'un des joueurs de l'équipe. Je lui ai dit juste, il y a juste une chose qui compte, quoi. Sortez juste de la poule. Moi, je pense que sur un match sec, il n'y a aucune équipe qui voudra nous prendre.
Je rappelle la poule, hein. Vous commencez par les Pays-Bas.
Oui.
Ça va, petite équipe. 21 novembre, 15h-17h. Le Qatar.
Yes.
Il faut les taper 3-0 et vous finissez par l'Équateur. C'est vrai que c'est jouable.
Enfin, le Qatar, il faudra voir aussi l'arbitrage maison, il faudra voir le contexte, etc.
Quoi, tu penses que vraiment il va y avoir l'arbitrage maison?
Moi, j'ai vu un Algérie.
Tais-toi!
J'ai vu un Algérie.
T'as pas le droit de dire ça.
J'ai vu un Algérie Qatar à la Coupe Arabe il y a deux mois et demi avec 17 minutes de temps additionnel à 1-0.
Non, mais la FIFA laisse pas passer ça.
Est-ce qu'on peut toujours gagner nos places?
Ça n'arrivera pas.
Je te trouve très ambitieux sur le 3-0, Nico.
Non, la FIFA ne protège pas le Qatar, les gars.
Franchement, 3-0, 0-0, l'essentiel est de sortir de la poule, point. Après moi, comme je dis aux gars, il n'y a aucune raison de craindre, qu'on ne craint aucune équipe. Ça jouera sur un match sec. Évidemment, faut pas faire hier, je suis désolé Oussem, mais comme on jouait hier les
Tunis, tu ne peux. Enfin,
c'est une. J'avoue qu'on leur a mis 5-1 facilement. Bah, c'était.
Non, c'est pas ça, mais c'est juste que face à une équipe avec autant de vitesse, tu ne peux pas te permettre d'être dans un plan suicidaire comme l'Argentine contre la France en 2018.
Mais Babacar, voilà. De toute façon, pour le Sénégal, sortir de la poule, c'est un devoir pour le Sénégal et même pour le continent africain. Exactement. Sincèrement, parce que la meilleure équipe africaine, si elle ne sort pas contre l'Équateur et contre le Qatar, sincèrement, ce serait un gros camouflet pour
le Sénégal. Gagner un titre continental.
Non, mais sincèrement,
je le souhaite. Il faudra s'appuyer également sur Pape Gueye, le Marseillais d'ailleurs.
Ah oui. Pape, en ce moment, il n'est pas mal. Franchement, il n'est pas mal. Et puis, moi, comme j'ai dit au gars, là, l'essentiel est d'arriver à la Coupe du Monde, que tout le monde soit en pleine possession de ses moyens. Oui. Il n'y a pas à avoir peur ou à faire de complexe face à qui que ce soit. Le Brésil, c'est impressionnant. Vrai. L'Argentine, beaucoup moins, mais c'est extrêmement solide. Mais
le Brésil,
on les a affrontés avec quasiment cette équipe, à part Richarlison et Rafinha. Bah, c'était à peu près la même composition. Hein. On a en partout, même. Parce que c'était en amical, mais c'était en partout quand même. Quoi. Donc, pour moi, c'est surtout ça. L'état d'esprit L'état d'esprit est nécessaire pour gagner un tournoi. Sans état d'esprit, on ne gagne pas un tournoi. En mode guerrier.
Tout à fait. Ouais,
je suis totalement d'accord.
Mais ça ne suffit pas, malheureusement.
Vous verrez, cette fois-ci, vous êtes. Franchement, vous allez. Tu te rappelles
Moi, j'adorerais un Sénégal demi-finaliste.
Moi, je crois au beau parcours du Sénégal. Je crois au beau parcours du Sénégal.
Mais Nico, la veille du match retour contre l'Égypte, j'avais appelé, je t'avais dit, on va passer.
C'est vrai.
Eh ben, peut-être que Ismaël Essar, c'est vrai que ce soir-là, ne voulait pas que je gagne mon pari du 3-0, là. Mais, c'est comme hier aussi, il a beaucoup vendangé. Mais moi, je te dis. Ah ben, donnons-nous rendez-vous en finale. Vous allez voir.
Le rendez-vous est pris, mon cher Babacar. Disons, tu nous rappelleras pendant la Coupe du Monde, évidemment, avec le 32-16. Tu seras là. Bonne soirée à toi,
Babacar. Très vite.
Farid nous dit sur le Direct Studio. Bonsoir à tous. C'est en algérien. Jeudi, allez le Sénégal, le Maroc, la Tunisie, le Ghana, le Cameroun.
Donc, il sera quand même
plus sénégalais.
Il a mis le Cameroun en dernier.
Ouais, tout de même, t'as raison.
C'est Walid qui a écrit le message ou c'est.
Vous voyez toujours des problèmes là où il n'y en a pas.
Alors, messieurs, on parlait de Pape Gueye à l'instant. Transition olympique de Marseille. Donc, je vous rappelle, mardi 18h45, l'OM reçoit le Sporting Portugal. Troisième journée de la phase de poule de la Ligue des Champions dans un vélodrome vide. Huis clos total.
Ouais.
Sanction de l'UEFA et huis clos partiel. Un virage nord fermé pour OM Tottenham. Donc, selon nos infos, et c'est de la Provence également, une réunion s'est tenue cet après-midi au sujet des huis clos infligés à Marseille. On vous disait hier soir que Marseille pensait faire appel de cette décision. Finalement, non. On a décidé qu'on ne ferait pas appel auprès de l'UEFA en considérant que ça n'en valait pas la peine vu la gravité des faits reprochés par l'UEFA et le fait que le Vélodrome était déjà sous le coup d'un sursis. Marseille accepte donc la sanction et regrette l'absence de ses supporters pour les deux matchs à venir. Je le rappelle. Et puis également, en complément, sachez, c'est Flo Germain qui m'envoie ça à l'instant, que selon les informations, une réunion avec les groupes de supporters de l'OM devrait avoir lieu en fin de semaine pour que l'OM puisse expliquer cette décision de ne pas faire appel et comment Marseille va gérer cette situation concernant les remboursements des abonnés, notamment le replacement de quelques supporters du virage nord dans d'autres tribunes contre Tottenham lors de la dernière journée de la phase de poule de Ligue des Champions. Bref, la saison de l'OM en Ligue des Champions, c'est catastrophique pour l'instant, on l'a dit. Est-ce que les supporters ont contribué à la plomber encore un peu plus en Ligue des Champions? Je rappelle, 0 points de match et le vide des tribunes. Appelez-nous 32-16, supporters de l'OM. On va en parler jusqu'à 21h. Romain, ton avis là-dessus, toi qui nous viens de Marseille?
Mais écoute, tout simplement, j'ai pas l'impression quand même que c'est la faute des supporters de l'OM si tu perds contre Francfort à domicile, si tu perds à Tottenham, même si tu perds, on va dire, avec les honneurs. Voilà, donc les 0 points, 0 pointés après deux matchs, c'est pas de la faute des supporters. Quand je dis ça, ce qui s'est passé, c'est très grave. Il y a un supporter allemand, alors il est pas mort, mais tu peux pas minimiser le truc en disant ouais il est pas mort. Non, ce qui s'est passé c'est grave, sa vie elle a totalement changé. Donc voilà, ça il faut placer ça, je pense, d'abord en premier, et après parler du reste. Il s'est passé des choses inacceptables, voilà, ces jets de pétards et compagnie. Alors même si les Allemands en ont balancé d'abord, de fusiller comme ça la tribune. Bon,
finalement, le qui a commencé, c'est plus un sujet.
Tu as totalement raison de le dire, c'est plus un sujet. Et tu te retrouves en fait dans une situation où tu as beaucoup de supporters de l'OM qui ont déploré ça et qui ont vu, puisque ça s'est notamment passé au moment en deuxième mi-temps, au moment du but refusé pour Francfort. Il y a un 2-0, but refusé, but de Kamada. Et c'est à ce moment-là en fait où ça a dégainé. Il y a beaucoup de supporters.
Tu es au stade, je le précise.
Il y a beaucoup de supporters du Virage Nord qui se sont insurgés de ça. Les groupes de supporters, les responsables, tu parles d'une réunion des groupes de supporters, les responsables du Virage Nord, notamment les fanatiques, ceux qui sont le plus près des supporters adverses, ça leur a aussi plombé leur match. Ils cherchaient à savoir qui avait fait ça. Mais les mecs qui font ça, ils viennent en cagoule à ce moment-là. Au moment où ils tirent, ils sont très bien. Et tu sais pas dans quel état ils sont, on va dire physiquement, psychologiquement, tu m'as compris. Et c'est dur de... C'est facile.
Tu parles d'état alcoolisé, notamment, autre substance illicite.
Et c'est là où je te dis, c'est très facile pour nous, ici, sur ce plateau, de dire, mais il faut que ça cesse, et que si tu vois un mec à côté de toi qui fait ça, bah, tu interviens. Très facile, là, de le dire sur
bien
le
sûr,
plateau.
Bien sûr.
Je me mets à la place de ceux qui étaient dans le Virage Nord pour ce match-là, qui ont vu ça, qui étaient très conscients des conséquences, qui étaient très conscients de ce qui pouvait se passer pour l'OM et pour la suite, pour ce match contre le Sporting Portugal. Eh ben, honnêtement, même si tu sais ça, tu vas pas non plus intervenir et dire à l'autre, oh, qu'est-ce que tu fais, et provoquer un échauffouré entre supporters marseillais, parce que tu sais pas comment ça se passe derrière. Donc, vraiment pas de leçon là-dessus, mais il y a beaucoup de Marseillais qui sont écœurés de ça, il y a beaucoup de mecs qui étaient dans le stade, dans cette tribune, et qui ont dit, on a passé le match à regarder les Allemands et pas regarder les supporters allemands. Ah ouais. Et du coup, on n'a pas regardé le match. Et donc, du coup, on était dégoûtés. L'OM a perdu, mais nous, on était doublement dégoûtés. Maintenant, de dire c'est de la faute des supporters. Ouais.
Non, de certains supporters.
Oui, non, mais que eux, c'est gâché. Mais de toute façon, c'est gâché quoi qu'il arrive. Tu me donnes le choix entre l'OM à 6 points, mais le reste des matchs sont à huis clos, ou l'OM à 0 points et on joue dans le stade. Tu penses que je vais choisir quoi? Je vais choisir les 6 points. Donc là, on est quand même dans un truc où l'OM s'est mis tout seul dans cette situation, a totalement manqué son match contre Francfort, et là, c'est rien à voir avec les supporters.
On vous attend au 32-16 pour en parler, supporters marseillais. Lionel arrive dans un instant. On fait une pause, on revient dans quelques secondes avec Romain Canuti, Walid Acharchour, Oussem Loussaïef dans Génération After. À 21h, on parlera de Kylian Mbappé, un avis tranché de Walid, un appel qu'il va lancer à Kylian. Je suis sûr qu'il nous écoute ce soir.
Sûr et certain.
Je pense qu'il a au moins écouté une fois l'After.
Surtout
quand
il était petit avant
parce que les footballeurs, moi j'écoute pas les émissions, c'est mes amis qui m'envoient les extraits,
les fameux amis.
Moi je pense que Kylian Mbappé regarde beaucoup de choses,
tu penses?
Ouais, il lit beaucoup de choses,
il lit beaucoup, c'est sûr. On sait peut-être qu'un jour il sera dans la grande librairie également sur France 5.
C'est possible
aussi. Allez, dans un instant la suite de Génération After, on est ensemble jusqu'à 22h. À tout de suite.
RMC 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Génération After, c'est mon rendez-vous sur RMC 20h-22h. Ceux qui ont grandi avec l'After, dont Oussem Loussaïef.
Exactement.
Romain Canuti, qui est plus de ma génération, je crois, Romain.
Non, mais je me souviens. J'étais à
on
l'université.
Est semi-génération After.
J'étais à l'université le jour de premier After. Qui faisait suite, c'était le fameux Well
bien sûr.
Milan.
Milan. T'es si vieux que ça?
Ouais, je me souviens.
Regarde, que Nico soit
vieux, ok? Mais toi,
Nico, j'ai pris un coup depuis un an ou deux, les gars.
Nico, c'est un peu le grand frère, c'est un peu le tonton.
C'est exactement ça.
C'est pour ça qu'on m'envoyait avec vous, les gamins, pour vous gérer, quoi.
Ouais.
Bien de tout, les fautes d'orthographe, de grammaire, tout ça. On fait un point après.
Ah, bien sûr.
Il y a du taf. Tu vois, Jean-Louis là. Également ce soir, Oussem Loussaïef aussi. La saison de Marseille en Ligue des Champions est-elle plombée, d'autant plus avec ce huis clos infligé par l'UEFA? J'accueille Lionel, le 32-16, supporter de l'OM. Salut Lionel.
Bonsoir.
Salut Lionel.
Bonsoir, bienvenue dans Génération After, Lionel.
Bonsoir.
T'es Génération After, Lionel, toi? Quel âge?
Moi j'ai 40 ans.
Ouais, c'est ça,
t'es la limite. T'es Génération Nico Jamin plutôt.
Voilà, c'est ça.
Ouais, voilà.
Vas-y, balance mon âge comme ça.
C'est juste à la limite.
Alors Lionel, on t'écoute. Tu es abonné au Vélodrome, hein?
Ouais, je suis abonné au Vélodrome depuis 30 ans.
Virage Nord.
Virage Nord. Et je pense que j'ai vécu le pire match en 30 ans.
Ah oui.
Voilà, vraiment. Pour plusieurs raisons. Déjà, je trouve que le filtrage à l'entrée était extrêmement mal fait. C'était mal organisé. Enfin, je n'ai jamais vu une organisation comme ça. Et là où j'en veux, moi, au groupe de supporters. Alors, je me considère comme un vrai supporter. Hein. Je suis abonné en Virage parce que j'aime encourager mon club. J'aime pousser. Voilà, je peux pas me considérer comme ultra, mais pas loin, puisque je suis affilié à un groupe de supporters. Par contre, là où je suis vraiment déçu et où je leur en veux, c'est au moment de l'entrée du stade. Alors, pour ceux qui connaissent le stade, il y a deux zones de filtrage. Première zone de filtrage, aucun filtre. Deuxième zone de filtrage où on doit présenter notre carte ou notre place. Là, devant moi, 80 gars. 80, parce qu'ils les ont comptés, sont rentrés sans billets.
Incroyable.
C'est, Et je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable. Je disais à votre standardiste au téléphone, moi, j'ai un grand garçon de 13 ans. Mon père m'a amené au stade. J'ai commencé à aller au stade, j'avais 10 ans. Il a 13 ans, je ne l'amène pas en virage.
Ah oui.
Et puis 3-4 ans, je trouve que ça se dégrade. Ça rentre sans billet. Alors, ça a toujours été le cas. Mais là, enfin, devant moi, match de Coupe d'Europe, 80 gars qui sont encadrés par deux leaders de groupe de supporters. Ils rentrent cagoulés, personne ne leur dit rien. Enfin, je trouve pas ça normal.
Bah, c'est un problème répondu depuis dans d'autres stades en Ligue 1. On sait qu'à Nice, ce genre de choses se produisent également. T'es surpris, Romain, parce que t'entends ou pas? Toi qui es au Vélodrome tout le temps.
Non, et en fait, c'est un effet aussi un peu, on va dire, un effet pervers. Oui et non, mais c'est peut-être pas le bon mot. C'est toi qui relève les copies, tu nous diras ça à la fin. Mais la fameuse révolution du cyprès dont tout le monde s'est félicité, notamment sur le plateau de l'After, et effectivement qui a de bons effets, ça a permis quand même à cette...
Rappelle ce que c'est quand même rapidement.
Et du coup, là, les supporters qui sont allés à la commanderie manifester leur mécontentement et qui provoquera le départ de Jacques-Henri Hérault et de son projet Agora OM qui provoquait un vif rejet, on va dire ça comme ça, à Marseille. Derrière, donc, il y a eu la présidence de Pablo Longoria. Ne soyons pas dupes, c'est pas Pablo Longoria qui gère le dossier des supporters à l'Olympique de Marseille. Pablo Longoria, il fait des transferts. Pablo Longoria, il est là sur le volet football. Il y a des gens qui sont derrière lui, qui gèrent ce genre de choses, qui lui font des notes, mais comme n'importe quel président derrière des secrétaires ou autre, ben là c'est pareil. Ouais. Et il a géré ce truc-là en faisant un peu ce côté union sacrée, on est avec les supporters. Oh, ben vous craquez quelques fumis. Bon, on va pas faire, allez-y, je regarde pas, faites ça pendant 5 minutes et je tourne la tête de l'autre côté. Et le problème de ça, c'est que il y a cette frange-là qui s'est engouffrée là-dedans. On a coutume à Marseille, Lionel va me dire s'il a le même sentiment que moi, le fameux FC Parvis aussi, où tu as des mecs qui se mettent minable, prends l'expression marseillaise, qui se mettent minables avant le match et qui rentrent après dans le stade dans un état second.
C'est répandu aussi dans notre stade de Ligue 1, encore une fois.
Enfin, ce parvis là où on autorise des fumigènes, d'allumer des feux d'artifice devant le stade, c'est pas un problème uniquement du club, hein, c'est un problème qui est général.
Ah bah oui, ça fait des belles stories Instagram, ça c'est sûr qu'ils viennent tous pour s'y prendre.
Tu vois, mon père, que j'embrasse au demeurant, ne vient plus au stade.
Ouais.
Parce qu'en fait, quand t'as 60 ans passés, finalement, eh ben, tu te dis, je vais rentrer dans un virage où il n'y a pas de contrôle, où finalement, chacun fait un peu comme il veut. Et pourtant, ce serait tellement simple. On a des cartes où il y a nos noms, nos prénoms, on envoie nos cartes d'identité. Pourquoi est-ce qu'on autorise encore?
Mais peut-être que certains supporters vivent ça comme un affront qu'on leur demande leur carte, peut-être, alors qu'ils ont leurs entrées depuis de nombreuses années. C'est toujours pareil, et pas uniquement à Marseille. Hein,
c'est ça, en fait.
La toute-puissance de certains supporters dans pas mal de clubs.
C'est ce que je me dis. Plus on avance dans la conversation, plus j'ai l'impression qu'on ne parle pas d'un problème marseillais, en fait. Y a, dans la question initiale, les supporters ont-ils déjà plombé la saison en Ligue des Champions? Il y a deux questions dans la question. Il y a la question sportive, on parlera de ça après, mais dans un premier temps, il y a la question des supporters, et c'est pas un problème marseillais, c'est un problème européen, c'est un problème.
Bon, il y a des stades où ça n'arrive pas, attention, Oussem. Hein.
Oui, il y a des stades où ça n'arrive pas. Mais je suis désolé, depuis quand même un an et demi, deux ans, on a quand même à chaque semaine une histoire dans n'importe quel stade. Dans n'importe quel stade français. Hier, je suis allé regarder le match de la Tunisie-Brésil. Il n'y a aucun lien entre les deux équipes. On a sifflé un hymne national. On a jeté une banane. Je suis allé avec mon père de 72 ans.
Tu parles de l'ambiance générale, environnement aussi.
Exactement. Moi, je pense qu'il faut laver les cerveaux du supporter.
Je ne sais pas comment.
Je ne sais pas comment. Peut-être que c'est des instances.
C'est un peu pieux, mon cher Oussem.
Non, peut-être que c'est les clubs qui doivent le faire. Peut-être que c'est les. Je ne sais pas qui. Il faut le faire.
Je pense que c'est au club de prendre la responsabilité à un moment donné. Des supporters à Marseille, on est des dizaines de milliers à chercher des abonnements. Tous les ans, c'est la même chose. Le stade, il sera plein quand même. Il y aura de l'ambiance. Des gens qui pousseront derrière leur équipe, pas de problème.
Oui, mais Lionel, on connaît l'histoire, que ce soit à Nice, à Marseille, à Lyon, il y a des supporters qui sont plus influents que d'autres. Et pour des raisons politiques, certains dirigeants de clubs préfèrent fermer un petit peu les yeux. Tu vois ce que je veux dire?
Sanctionnons les groupes de supporters. Moi, je pense qu'on devrait contribuer au paiement des amendes.
Mais en fait,
parce que finalement, quand tu laisses rentrer 50, 80 ou 100 fumigènes dans le stade, non encadrés, ça veut dire que tu cautionnes le grand n'importe quoi.
Juste, Lionel, par rapport à ça et les groupes de supporters, je pense que dans l'absolu, ils cautionnent pas ce genre de choses. Mais c'est juste qu'à choisir entre on sanctionne ces individus-là, cette frange-là, et on donne du coup le pouvoir au club d'être dans un on sanctionne à tout va, on prend, comme tu dis, comme il y a plus de demandes que d'offres, ben on va monter les prix et on va partir là-dedans. Ben, entre guillemets, les groupes de supporters font le choix de se dire on va fermer les yeux sur ces irréductibles-là pour ne pas basculer dans
Moi, je te suis pas. Hein. Moi, je n'augmenterai pas les tarifs.
Je te dis pas que c'est bien.
Les tarifs sont bons. Par contre, les gars, si vous ne faites pas le ménage chez vous, quand Depay était capot au MTP, je suis désolé.
Lionel, il se passait des choses quand même. On le sait. Enfin, j'étais aussi. Il se passait des choses, Lionel.
Mais moindre mesure. Moindre mesure.
Parlons du sportif.
Plus la tête entre nous. Et aujourd'hui, tu as des joueurs qui, sur le terrain, passent peut-être plus de temps à réfléchir à ce qui pourrait se passer après que finalement tout donner pendant le match.
Peut-être que finalement, le clos est un mal pour un bien. Peut-être. Lionel, merci pour ton témoignage d'avoir fait le 32-16. Excellent soir. Tu nous rappelles quand tu veux sur RMC dans Génération After. Parlons du sportif, les gars, également. La saison, au-delà des supporters, elle est plombée.
C'est ce que je disais.
En Ligue des Champions, je parle, bien sûr.
C'est ce que je disais. C'est la deuxième partie de la question sur le plan sportif. Et là, on ne peut pas rejeter la faute sur les supporters. Je suis désolé, contre Francfort, ce n'est pas les supporters qui ratent les passes à 3 mètres. Ce n'est pas les supporters qui sont dépassés tactiquement. Donc, oui, il y a une part de responsabilité. Oui, bien sûr qu'on aurait aimé, comme disait Romain, un vélodrome rempli et plein de joie, mais je suis désolé, il y a un vrai déficit de niveau.
Après, simplement, la finalité, c'est que tu vas pas avoir 65 000 personnes dans un match contre le Sporting, une équipe qui vient de faire 6 points
où
sur 6.
Où tu joues ta vie, quoi.
Qui vient de mettre une trempe à Tottenham dans le jeu il y a 10 jours. Et ça, c'est quand même dommageable pour l'Olympique de Marseille, surtout avec début de saison qu'ils essayaient de nous raconter, notamment avec ce début de saison en Ligue 1 très intéressant.
Qui se raconte au classement, hein,
Exactement. Et là, si tu te retrouves à 0 sur 9 après 3 matchs avec un stade vide du Vélodrome, l'image que tu laisses à mi-parcours en Ligue des Champions, c'est quand même catastrophique.
Ben, c'est catastrophique sur le terrain. Pas définitif.
Oui, bien sûr. Enfin, c'est pas définitif.
Si au bout des 6 matchs, tu arrives à relever un peu la tête.
Ah si, oui.
Et tu finis sans te dire finir deuxième ou quoi que ce soit, mais si tu arrives déjà dans le jeu à montrer quelque chose de mieux sur les derniers matchs, parler d'une qualification, mais c'est déjà pas mal.
Tu connais la spirale, tout ce qui va accompagner une énième défaite de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions,
la mini crise qui
peut aussi impulser en Ligue 1, parce que on peut en parler, mais les victoires, les défaites aussi appellent les défaites, et surtout le quatrième, le cinquième et le sixième match, et on se rappelle des dernières campagnes de l'Olympique de Marseille où on a commencé du côté de l'OM avec un premier match contre Tottenham où on a dit oh super dans le comportement, la première mi-temps jusqu'au carton rouge, et ça peut se terminer en autre boudin. Donc attention, et ça y participe. Moi, je suis totalement d'accord avec vous sur le fait que les torts soient partagés. Le match contre Francfort, pour moi, a été vraiment
en dessous de tout, quoi.
Le niveau, il n'y a pas eu le niveau Ligue des Champions de la part des Olympiens, du coach jusqu'au joueur. Mais le problème, c'est que tu te rajoutes un caillou dans la chaussure, tu te remets une balle dans le pied alors que l'Olympique de Marseille n'en avait pas besoin.
Par contre, Aude Boudin, tu le dis après 22h.
C'est vrai que j'essaie de me.
Aude Boudin, c'est pas Génération After.
Mais en fait, j'étais un peu dans N'oubliez pas les paroles. J'avais en fait deux, trois solutions.
Mais moi, j'aime bien.
Arrête.
Moi, j'aime bien. Mais c'est parce que t'as 40 ans.
Ouais, tu sais qu'Oli dit, il raisonne comme ça. Hein. Il a toujours un plan A, B ou C.
Exactement.
Dans son raisonnement, il choisit, il pioche.
Voilà. Ah, moi, c'est.
Il varie.
Du haut
moi,
carré
moi, non, mais moi, c'est qui veut.
Duo carré cash, c'était quoi? C'était l'émission de Nagui, ça.
Qui veut prendre sa place?
Qui veut prendre sa place?
Incroyable comme jeu.
C'est vrai?
Ouais, je préfère.
Tout le monde veut prendre sa place.
Moi, je préfère ça à qui veut gagner des millions, moi.
Impopulaire
opinion, je préfère sincèrement.
Moi, j'ai plus Génération facile à chanter, moi.
Ah non, mais non.
Casimir, le gars.
Mais non, le qui veut prendre sa place sur Internet, déjà, comme le disait Romain, c'est incroyable.
Tout le monde veut prendre sa place, c'est pas ça?
Tout le monde veut prendre sa place.
Excusez-moi, les gars.
Tout le monde veut prendre sa place. Et d'aller chercher, entre guillemets, le gagnant avec des thèmes, un thème qui te choisit à lui. Je trouve qu'il y a.
Je suis la team Motus.
Moi, le meilleur jeu ever à la télé, divertissement, c'est le juste prix. C'était magnifique.
Ah oui, Philippe.
Le tyrolien, tout ça. Le golf, le mini-golf.
Philippe, Patrick Croix.
Non, Philippe Rizzoli.
Patrick Croix, de quoi?
Ah non, Philippe Rizzoli. Les gens, Patrick Croix.
Mais non,
c'est à son âme.
Merci, Nico.
Philippe Rizzoli.
Allez les gars, dans un instant, on reparle foot, c'est promis, dans Génération After, avec Willy Dacharchou, Romain Canutti et Oussem Loussaïef. La vie, soyez là, hein. Le message lancé directement, les yeux dans les yeux, comme dit Jean-Jacques Bourdin, de Willy Dacharchou à Kylian Mbappé. Écoute-nous, Kylian.
Écoute.
Il a un message pour toi, Willy. C'est Génération After sur RMC, 20h57, à tout de suite.
RMC jusqu'à 22h, Génération After.